Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, à 10 jours des élections européennes, retour sur l'acte fondateur de l'Union européenne, le référendum pour le traité de Maastricht. Début 92, les États membres se trouvent confrontés à un choix crucial. Faut-il passer par les parlements, largement acquis à la cause européenne, ou par référendum par nature, plus risqué? Sur les 12 pays que compte la communauté économique européenne d'alors, 3 seulement vont faire ce pari, l'Irlande, le Danemark et la France. S'ensuit un débat politique intense et le 20 septembre 1992, le traité est accepté mais de justesse, le oui l'emporte en France par 51,04% des voix. Aujourd'hui, 27 ans après le traité de Maastricht, l'Union européenne semble plus que jamais fragilisée. Plusieurs pays jouent leurs propres cartes, les signataires du groupe de Visegrad avec la Hongrie en tête, il y a aussi le cas de l'Italie et celui bien sûr de la Grande-Bretagne, toujours en attente de sortie, évolution auxquelles il faut ajouter la grave crise économique en Grèce, la tragédie des migrants, la montée des populismes et le chômage de masse qui persiste. Autrement dit, pourquoi l'Europe, présentée en 92 par les tenants du traité de Maastricht comme la solution, est-elle devenue pour les peuples qu'elle fédère et certains citoyens d'Europe, le problème? Une question en forme de désillusion sur laquelle nous allons réfléchir également après le récit avec notre invitée Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Johan Denain, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Neuf et 10 décembre 1991, Maastricht, petite ville au sud des Pays-Bas. C'est là, dans le palais du gouvernement provincial, que se retrouvent les chefs d'État et de gouvernement pour les dernières discussions sur le traité qui porte le nom de cette commune néerlandaise. Au menu, naissance de l'Union européenne qui remplace la communauté économique européenne avec monnaie unique, affirmation d'une citoyenneté européenne, politique étrangère et de sécurité commune, coopération sur la justice et les affaires intérieures. Les grandes lignes en ont déjà été discutées depuis 2 ans. 2 années qui ont chamboulé l'Europe, avec en novembre 1989 la chute du mur de Berlin qui précipite la décomposition de l'Union soviétique. Quelles vont être les nouvelles frontières de la future Union européenne? Aura-t-elle vocation à accueillir les pays de l'Est, par exemple? Au cœur de cet échiquier, l'Allemagne, bien sûr, un pays puissant. Trop puissant? On a la réponse aujourd'hui, mais à l'époque et après la réunification, c'est déjà le pays le plus riche d'Europe. « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux », aurait dit Mauriac 40 ans plus tôt. Cette phrase résonne dans l'esprit de François Mitterrand qui, comme beaucoup d'autres, craint que ce pays renoue avec ses vieux démons. Sur ce point, Helmut Kohl, un Européen convaincu, se montre rassurant, avenant même.
Celui qui a peur des Allemands aujourd'hui, eh bien, il faut tout d'abord analyser ses craintes. De quoi avez-vous peur ? Du point de vue militaire, c'est absurde. L'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire et ne le deviendra pas. Ce n'est absolument pas notre volonté. Mais la meilleure façon de lever la crainte, mais c'est bien l'intégration politique européenne, c'est le seul argument vraiment convaincant. Naturellement, ma politique n'a absolument pas changé. Lorsque je parle de l'Allemagne et de la France, je dois d'abord parler de l'Europe et ensuite de l'Allemagne et de la France. Les deux choses sont inextricablement liées. Je suis absolument résolu à mettre en œuvre le préambule de notre Constitution. Tant que je serai en mesure de le faire, la Constitution dit « Nous voulons l'unité allemande et l'unification politique de l'Europe ». Ce sont les deux faces d'une même médaille.
Première ronde, l'union économique et monétaire. Le système monétaire européen en 79, puis le marché unique Jacques Delors dans les années 80, ont fait leur preuve. L'Europe économique fonctionne. Il faut donc maintenant parachever ce grand marché avec une monnaie unique. Mais la Grande-Bretagne préfère une monnaie commune, une monnaie de référence qui permet d'harmoniser les politiques monétaires, certes, mais tout en laissant une souplesse aux États. Car la monnaie unique, elle, suppose trop de contraintes aux yeux des Britanniques, à la tête desquels la mise en place d'une autorité financière de régulation, la future Banque Centrale Européenne, ainsi que l'application des fameux critères de convergence, maîtrise des dépenses publiques avec un déficit inférieur à 3% du PIB, maîtrise également de l'inflation et des taux d'intérêt. Ces critères de Maastricht, diront certains, vont rester jusqu'à aujourd'hui le symbole de la domination d'une Europe sans visage sur les politiques économiques nationales. Pour l'Allemagne et pour la France, cette Europe monétaire doit être accompagnée d'un volet social qui, avec l'Europe de la défense, sera au cœur des discussions du lendemain qui s'annonce rude. Deuxième round, mardi 10 décembre 91. La journée commence tôt, avec au petit déjeuner un tête-à-tête désormais rituel lors des sommets européens entre les deux alliés, François Mitterrand et Helmut Kohl. Et les entretiens sont toujours dominés par la résistance britannique. Sur l'Europe de la défense, les débats sont tendus, elle qui n'a pas su affirmer une position commune face à la guerre du Golfe et au leadership américain. Plus grave, à 2 heures d'avion de Paris, c'est la guerre en Yougoslavie qui fait rage au sein d'une Europe conçue précisément pour éviter la guerre. Mais les États membres, là encore, ne parviennent pas à se mettre d'accord pour intervenir dès le début du conflit. À 18h, le tandem franco-allemand parvient à faire accepter aux 12 l'idée d'une défense commune. Oh, les résultats sont timides. Toute décision requiert l'unanimité, ce qui est évidemment difficile, voire impossible, car qui dit unanimité, dit droit de veto. Un seul pays refuse un accord, il n'y a plus d'accord. Quant aux discussions sur l'Europe sociale, elles butent sur le refus de la Grande-Bretagne, qui ne veut pas perdre sa compétitivité. Alors, à 1h30 du matin, c'est un François Mitterrand visiblement fatigué qui annonce la fin du sommet.
Fin 1991, cette charte accompagnera la politique sociale. Seulement, elle l'amènera à 11, en raison du souhait de la Grande-Bretagne de rester au dehors.
On doit cet arrangement de dernière minute à la Hollande, mais à 2h du matin, John Major se félicitait d'avoir tenu bon, non sans une certaine ironie. En matière sociale, le texte du traité n'est pas changé par rapport au traité de Rome. Il n'y a pas d'extension des pouvoirs de la communauté, pas de majorité de vote supplémentaire, il n'y a pas de nouveau texte de traité sur l'Europe sociale.
Quelques semaines plus tard, le 7 février 1992, le texte est enfin signé par les chefs d'État et de gouvernement. Alors, est-ce enfin le jour tant attendu qui, depuis la signature du traité de Rome en 1957, consacre l'Europe ? Est-ce le grand soir de l'union des peuples ? Le problème, c'est qu'en France, nous sommes à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville. Donc du sport, du fun et surtout du concret. Autant dire que face à cet événement, le traité européen compliqué et conceptuel intéresse peu. Du reste, ce soir-là, au journal télévisé, l'ambassadeur français auprès de ce qui est encore la CEE ne parvient pas à convaincre.
C'est un traité qui lui-même porte en germe des négociations complémentaires et des avancées complémentaires qui se feront dans les, disons, les 8 ou 10 ans qui viennent. Et par conséquent, Ce traité, en quelque sorte, est une étape dans un processus qui a démarré au moment où a été signé le traité de Rome et qui n'est pas achevé encore.
Ce traité doit être ratifié par tous les États membres et chaque pays doit maintenant faire un choix, ratification par les parlements ou référendum populaire. Le 3 juin 1992, François Mitterrand crée la surprise lorsqu'au terme d'un conseil des ministres, il annonce tranquillement son choix, ce sera le référendum. La France rejoint donc l'Irlande et le Danemark où la veille de ce 3 juin, le peuple s'est prononcé contre le traité de Maastricht à une très courte majorité. En France, le tableau est sombre. Le chômage persiste, l'affaire du sang contaminé empoisonne la chronique et les erreurs d'Élite Cresson qui vient d'être remplacé par Pierre Bérégovoy ont affaibli le président. Les dernières élections régionales, 3 mois plus tôt, ont infligé une sévère défaite au Parti Socialiste. François Mitterrand est particulièrement impopulaire, le second septennat s'essouffle. Côté politique, le débat sur le traité de Maastricht a déjà commencé. Depuis 2 mois, le Parlement et le Sénat sont en pleine discussion. Le Conseil constitutionnel estime que pour ratifier le traité de Maastricht, il faut réviser la constitution française, pas moins. Les premiers votes au Parlement et au Sénat confirment que cette révision sera bel et bien votée. Mais des voix dissonantes s'expriment. Un homme particulièrement déterminé ouvre et anime le débat. C'est Philippe Séguin, brillant énarque de 49 ans à l'époque, député des Vosges, orateur de talent. C'est lui qui ouvre les hostilités contre le traité de Maastricht, mais aussi contre la majorité de son camp, le RPR, comme ici, à l'Assemblée nationale, le 5 mai 1992, où, comme beaucoup d'opposants à Maastricht, il prononce Maastricht.
On ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique, mis au point à Maastricht, est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789.
Cette intervention de Philippe Séguin va diviser le RPR. Plus largement, elle lève un tabou au sein des grands partis politiques. Et la parole se libère, bien au-delà d'ailleurs du parti néo-gaulliste.
Dans sa croisade anti-Maastricht, Philippe Séguin en effet agrégé sous sa bannière beaucoup plus de volontaires que prévu. Il y a bien sûr les brigades du Parti communiste, quelques mercenaires socialistes autour de Jean-Pierre Chevènement, deux ou trois têtes brûlées de l'UDF comme Philippe de Villiers ou Alain Griotret, et surtout plusieurs escouades de gaullistes, près d'une soixantaine de fantassins prêts à se battre pour la défense de l'héritage.
Dans ces conditions, pourquoi tenter le pari risqué d'un référendum ? D'abord et avant tout pour légitimer la construction européenne. Deux jours après son annonce d'un référendum, François Mitterrand se justifie lors d'un déplacement à Sciences Po face à une salle déjà divisée sur la question.
J'ai choisi, comme vous le savez, le référendum. C'est plus risqué, c'est vrai, et je le sais. C'est risqué pour l'Europe, c'est risqué pour le gouvernement et la majorité. C'est risqué pour le président de la République. Il faut donc engager un combat démocratique. Et ce débat n'aurait pas eu lieu autrement. Les députés et les sénateurs auraient continué de discuter, personne ne s'y serait intéressé. Or, il faut que dans chaque village, que dans chaque commune, que dans chaque quartier, dans chaque rue, il y ait une formidable explication, puisqu'il s'agit et de la France et de l'Europe.
Autre explication, plus tactique, il s'agit surtout de surprendre ses adversaires politiques. Car l'idée du référendum ne vient pas du Parti Socialiste. La plupart de ses membres, favorables au traité, ont en effet une crainte que le peuple vote contre François Mitterrand. D'ailleurs, tous les autres partis ont exigé un référendum, des communistes jusqu'à l'extrême droite, en passant par le RPR de Jacques Chirac, évidemment, la belle affaire. Il n'y a qu'à l'UDF que le débat est ouvert. Valéry Giscard d'Estaing, européen jusqu'au bout des ongles, craint de perdre sur les deux tableaux. Si le oui l'emporte, son adversaire de 1981, qui a osé lui ravir l'Elysée, sera renforcé. Et en cas de victoire du non, Maastricht et donc l'avenir de l'Europe seront condamnés. En fait, le chef de l'État aurait attendu que ses adversaires politiques lui demandent ce référendum tout en l'estimant peu probable, car trop risqué. Mais l'occasion était trop belle de leur couper l'herbe sous le pied. Bien, mais pourquoi François Mitterrand a-t-il attendu le mois de juin pour l'annoncer ? Le calendrier électoral pourrait aussi expliquer cette annonce tardive, car le vote doit se tenir le plus tard possible. En mars 1993, en effet, les élections législatives risquent d'imposer au chef de l'État une seconde cohabitation. Ce débat public sur le traité de Maastricht aura l'avantage de mettre au grand jour les divisions internes de la droite, voire de l'affaiblir du Mitterrand pur jus. La consultation des Français par référendum va donc se tenir le 20 septembre 1992. 14 juillet de cette année-là, c'est le traditionnel garden party de l'Élysée. Lors de la non moins traditionnelle interview liée à cet événement annuel, François Mitterrand mise sur la responsabilité des Français tout en prenant soin d'écarter l'idée d'un plébiscite. L'homme est réaliste, mais confiant. Dans les jardins de l'Élysée, on parie que le oui a toutes les chances d'atteindre les 55%. Deux semaines auparavant, le président confiait même à l'un de ses proches qu'il pourrait l'emporter à 60%. Mais en ce jour de fête nationale, limite iconoclaste, c'est Elisabeth Guigou qui tire la sonnette d'alarme. La ministre déléguée aux Affaires européennes est la seule du gouvernement à être entrée en campagne pour défendre le traité. Mais son constat est lucide. Les Français sont sensibles aux arguments du non, qui progressent d'ailleurs au cours de l'été. Convoqué par le chef de l'État, un dirigeant d'Ipsos montre que le plancher du oui est à seulement 52%. Fin juillet, le chef de l'État sent le vent tourner. Alors il rassemble ses troupes et confie la riposte à Jack Lang et Elisabeth Guigou. Il faut mettre en œuvre une stratégie de conquête. Mais faut-il mener une campagne spécifiquement socialiste ou au contraire harmoniser les arguments de l'ensemble du oui droite incluse? Là où Jack Lang veut inviter les people à défendre le oui, Jacques Pulan et Hubert Védrine veulent mobiliser la France profonde. Autre question, faut-il dramatiser les conséquences du non? Expliquer que cet échec serait terrible pour la construction européenne? La campagne pour le oui va user de cet argument. Si vous êtes pour la paix, vous êtes pour l'Europe et donc vous êtes pour le traité. Ainsi, s'opposer au traité serait d'une certaine façon laisser la porte ouverte à la guerre. Cet argument extrême ne propose rien de positif. Ne reposant que sur la peur, il n'aide pas le camp du « oui » face en tout cas aux arguments des partisans du « non » qui tiennent en une phrase « oui, on peut être pour l'Europe et contre le traité » et mieux encore, c'est parce que nous sommes pour l'Europe que nous sommes contre le traité. Hormis le Front National, les opposants affirment haut et fort leur désir d'Europe, mais d'une autre Europe. Alors, durant tout l'été, tandis qu'Elisabeth Guigou sillonne les plages à la rencontre des Français, Philippe Séguin, lui, dans un style plus classique, choisit de faire une tournée de conférences dans la France entière, où il affirme une autre conception de l'Europe.
Il y a deux conceptions qui s'affrontent. Il y a une conception à vocation supranationale, à finalité fédérale, qui cherche à réaliser un seul État, et puis il y a une autre conception qui pense que les États-nations n'ont pas fait leur temps, et qui cherche à construire une Europe qui serait appuyée sur les États-nations en question. Le propre de Maastricht, c'est de trancher entre ces deux conceptions, et à mes yeux, de faire mauvais choix.
Au RPR, le camp du non voit dans ce traité une perte de souveraineté nationale sur des sujets aussi variés que la monnaie unique, la citoyenneté européenne, le droit de vote pour les ressortissants européens dans les élections locales ou la politique commune d'immigration. Au PS, Jean-Pierre Chevènement profite également de l'été pour faire sa campagne. Il fonde le mouvement des citoyens et réunit lors de conférences publiques communistes refondateurs, socialistes contestataires et verts résolument à gauche. Le point de départ est le même qu'à droite. Le traité de Maastricht implique une perte de souveraineté. Mais Jean-Pierre Chevènement insiste sur l'une des conséquences, le chômage.
Je crois qu'il y a un déficit démocratique certain. On n'a pas assez parlé concrètement de la manière de faire la construction européenne. Trop de décisions se prennent d'une manière totalement antidémocratique. Et puis la montée du chômage ne peut quand même pas s'expliquer facilement si on ne met pas en relief le rôle joué par les contraintes monétaires dans notre politique économique depuis au moins 1983. Alors, cette Europe de Maastricht, c'est une Europe qui va renforcer les disciplines monétaristes, les politiques dites de convergence, qui vont grossir le chômage avec toutes les fractures sociales que cela implique.
En fait, c'est la crainte d'une Europe libérale qui s'affirme à gauche. La politique des États en matière économique devra se conformer au principe de libre concurrence. Si la banque centrale sera indépendante des gouvernements, certes, elle ne le sera pas des marchés financiers. De son côté, François Mitterrand passe son été à préparer le grand débat télévisé qui, le 3 septembre, sera le temps fort de cette campagne. Mais ce qu'on sentait arriver arrive. Fin août, le non est donné gagnant à 52%. Côté socialiste, c'est la mobilisation générale. Hubert Védrine, alors secrétaire général à l'Élysée, donne le ton. Il faut reconquérir les suffrages voix par voix, lance-t-il à toute son équipe, faire basculer les indécis. Chacun doit téléphoner à 50 personnes dans son entourage. Bref, il faut aller chercher la victoire avec les dents. Jack Lang et Elisabeth Guigou convoquent alors l'ensemble des directeurs et des chefs de communication des différents ministères et l'atmosphère se tend dans l'entourage du chef de l'État. Certains, comme le président de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli, ou le secrétaire d'État à l'enseignement technique, Jean Glavany, reprochent au président de s'être lancé dans cette aventure. Ne devrait-il pas, pour sauver l'Europe, annoncer son départ? Aurait-il songé quelque part à imiter De Gaulle et son référendum suicide de 69? Dans le monde entier, les bourses, elles aussi, réagissent au sondage. Que le nom monte et elle plonge. Les Français, eux aussi, se prennent de passion pour le référendum. Une vingtaine de pamphlets d'analyse recouvrent les étals des librairies. En tête, les deux mousquetaires du nom, Philippe de Villiers et Philippe Séguin, avec plus de 50 000 exemplaires de leurs livres déjà vendus en ce début septembre. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui, le traité de Maastricht. Le 3 septembre 1992, c'est le grand jour pour convaincre les derniers indécis. Plus de 8 millions de Français vont assister au grand débat diffusé sur TF1 depuis l'amphithéâtre de la Sorbonne, un lieu solennel où François Mitterrand joue sa dernière carte. L'émission dure plus de 3 heures. Elle commence par un entretien avec Guillaume Durand, au cours duquel sont abordés les grands points du traité. Ensuite, le président répond à 14 Français soigneusement sélectionnés. Un dispositif qui court-circuite les élites politiques, médiatiques, la nomenclature institutionnelle. Pour un référendum, on peut le comprendre, mais cette méthode va s'imposer ensuite et jusqu'à aujourd'hui pour n'importe quelle élection alimentant la démocratie du moi-je aux dépens du débat de fond. Toujours est-il que ce jour-là, le chef de l'État est volontiers pédagogue face aux questions du panel. Ensuite, il répond aux questions de 3 journalistes. Et là, évidemment, c'est un peu plus difficile, notamment avec ce vif échange avec Jean d'Ormesson.
Jean d'Ormesson.
Monsieur le Président, vous êtes dans une situation terriblement paradoxale.
Ah.
Vous êtes, on le voit bien ici, le meilleur et le principal animateur de Maastricht.
Vous êtes bien aimable.
Et vous êtes, vous le savez aussi, le principal obstacle à Maastricht.
Selon vous.
Selon les sondages.
Selon quelques autres, vous avez raison. Vous n'êtes pas le seul à le penser.
Je voudrais vous demander si l'idée ne vous est jamais venue de sacrifier votre carrière personnelle à une cause qui la dépasserait très loin.
Ça m'est arrivé déjà.
Eh bien, ce soir, ici, maintenant, si vous annonciez, comme vous le demande, non pas seulement les adversaires, mais je crois bien des amis, qu'en cas de victoire du non, Je veux dire qu'en cas de victoire du oui. Excusez-moi, c'est le lapsus inévitable. Nous n'en parlons.
J'ai parfaitement compris ce que vous vouliez me dire, mais vous en excusez pas.
En cas de victoire.
En somme, on me demande de partir en cas de oui et en cas de non.
Absolument, vous avez raison.
Le corps est malade, mais l'esprit est toujours là. Dernière partie de l'émission, le chef de l'État débat avec un Philippe Séguin, référent, visiblement impressionné par son adversaire, on peut le comprendre.
Je vous ai entendu développer une théorie originale qui est la théorie de l'accident. Pour le reste, je n'ai pas grand-chose à vous répondre, parce que vos critiques portent essentiellement sur l'Europe telle qu'elle a existé, et pas du tout sur le traité de Maastricht tel qu'elle doit exister. Alors, je n'ai rien à vous répondre là-dessus.
Et pourtant, il se trouve, Monsieur le Président de la République, qu'il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht.
Je pense que c'est votre cas.
C'est probablement mon cas, oui.
Probablement seulement.
Plus que probablement.
Oui, quelquefois, je me pose la question.
Mais je me réserve, Monsieur le Président de la République, jusqu'à la fin de notre discussion.
Oui.
Il serait irrévérencieux vis-à-vis de vous de conclure trop tôt.
Les commentateurs de l'époque sont unanimes. François Mitterrand a su gagner des points pour le oui dans cette émission, avec des arguments solides au cours d'un débat de qualité, alors qu'en principe, une émission de télé ne fait pas basculer une élection. Exceptionnelle aussi la combativité du président. Martyrisé par son cancer, il fait preuve d'une ténacité, d'un courage physique qui aujourd'hui encore suscite l'admiration. Comme en témoignent Guillaume Durand et Étienne Moujotte, alors patron de TF1 qui diffusait le débat, tous deux racontent ce qui se passe pendant la coupure de publicité demandée par l'Élysée.
Et moi, ils m'ont rien dit. La seule chose que je savais, c'est qu'un jour, peu de temps avant le début, je crois qu'ils avaient réclamé une coupure de pub.
Et en réalité, elle a permis à François Mitterrand de prendre quelques minutes de repos. Et au moment de la coupure, je l'ai raccompagné dans ce qui était sa loge. C'était une petite salle de la Sorbonne. Ça n'avait évidemment rien d'une loge de télévision. Et il s'est enfermé avec le docteur Hubler.
Séguin revient. Mitterrand ne revient pas. J'ai Moujotte, moi, dans l'oreillette, qui me dit « on ne sait pas où il est ». Tout d'un coup, je me suis retrouvé seul avec Séguin, quand même assez imposant, cette espèce de Falstaff pied noir qui attendait dans un coin. La Sorbonne bourrée, un orchestre prêt à démarrer, Mitterrand, rien. Et Moujotte qui me dit « on ne sait pas où il est ». Il va revenir. On ne sait pas où il est. Il va revenir.
Et puis, François Mitterrand est sorti. Il avait l'air damné, comme on dit. Et puis, on l'a ramené sur le plateau, il est revenu sur le plateau, il s'est assis, et là il a engagé un débat avec Philippe Séguin, un débat extrêmement brillant, enfin où il a vraiment, peut-être là, sinon gagné le Maastricht, du moins marqué des points formidables.
Une semaine plus tard, le 11 septembre 1992, François Mitterrand est hospitalisé et révèle enfin, après plus de 10 ans de silence, son cancer de la prostate. Quelques jours plus tard, à sa sortie de l'hôpital, face à un journaliste qui semble s'excuser de lui poser la question, il conserve toute sa répartie.
Monsieur le Président, vous avez souhaité toujours beaucoup de transparence sur votre état de santé, donc il faudrait qu'on vous demande si vous pensez aujourd'hui continuer vos activités ou si vous avez songé à les abandonner, à démissionner.
Non, je n'ai pas encore songé, non. Non, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passe.
Dimanche 20 septembre, journée du scrutin. Les médias offrent le spectacle habituel du vote des personnalités politiques et à 20h, les premiers résultats tombent.
Comme je vois que tous nos confrères des télévisions donnent déjà le résultat, je pense que nous pouvons appeler Roland Quayrol depuis le CSA. C'est le oui qui l'emporte.
Et oui, c'est le oui qui l'emporte. Oui, 51,5. Non, 48,5. Je répète, oui, 51,5. Non, 48,5. Il y a par ailleurs 29% d'abstention et 2,4% de bulletins blancs et nuls. Donc le oui l'emporte en effet, vous le voyez, mais c'est un petit oui, 51,5.
51,04% pour le oui sur le fil du rasoir. L'avance n'est que de 540 000 voix et la participation est exceptionnelle avec près de 70% des inscrits qui ont voté. Et l'on s'aperçoit que le camp du non est largement ancré à gauche et chez les populations les plus fragiles, tendance que d'autres consultations sur l'Europe viendront confirmer plus tard. Mais sur le coup, ce résultat reste bien sûr une victoire et un soulagement pour le chef de l'État qui intervient à l'Élysée vers 22h30.
Imaginez maintenant
la joie des pays de la communauté, nos amis les plus proches, qui attendaient de nous le signe dont ils avaient besoin. Imaginez la joie des autres pays européens, presque tous, qui aspirent à nous rejoindre, surtout ceux qui ont été si longtemps privés de liberté.
Le débat sur le traité de Maastricht aura profondément marqué l'esprit des Français, à gauche comme à droite, tout comme les aura marqué la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel de l'Europe, cet espace géopolitique si prometteur hier, qui aujourd'hui pourtant semble être à l'origine, à tort ou à raison, du malaise des peuples européens. Malaise économique, crise de la dette, déficit public, chômage, flux migratoires, technocratie de Bruxelles et surtout déficit démocratique, peut-être l'échec le plus patent du rêve européen. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le traité de Maastricht. Notre invité, Elvire Fabry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors, membre du comité de rédaction de la revue d'analyse prospective Futurible et du conseil stratégique du mouvement européen France et cofondatrice de Pro-Europa. Tout est vrai?
Absolument.
Bien. Autant dire que si tout est vrai, vous n'avez pas, l'Europe n'a pas de secret pour vous. Alors, je voudrais commencer cet entretien au-delà de la dimension et des dimensions classiques de l'Europe, dimension concrète, économique, politique, administrative, par la dimension culturelle et historique, parce que finalement notre lien à nous, Européens, c'est ça, je crois. Et Laurent Godet, romancier, novelliste et dramaturge, a écrit « Sous le soleil des Scorta » qui se déroule dans les Pouilles. Et les Pouilles, c'est en Italie, et l'Italie, c'est au cœur de l'Europe. Et il vient d'écrire un livre magnifique, toujours Actes Sud, dont il est très fidèle. Un livre qui s'appelle « Nous, virgule, l'Europe, banquet des peuples », et dont je vous lis un petit passage. Je ne vais pas vous faire une longue lecture, mais quelques lignes qui en disent beaucoup. « Qui sommes-nous ? Héritier de quel passé, traversé par quel tourment, fautif de quel crime et porteur de quelles utopies? Que voulons-nous? Notre continent a inventé des cauchemars, fait gémir ses propres peuples, mais il a aussi su faire naître des lumières qui ont éclairé le monde entier. C'est cette contradiction-là qui nous constitue. Nous sommes peuples du tourment, peuples entremêlés depuis si longtemps dans la rivalité, le commerce, la mort et l'élan, peuples si différents que notre choix de nous unir dans une assemblée commune est un événement inouï au regard de l'histoire. À quelle époque, en quel lieu a-t-on vu semblable aventure politique? 27 nations décidant de faire un grand banquet des peuples. J'ai l'impression que tout est dit, moi. Et vous?
Absolument, je suis ravie que vous commenciez par cet enjeu, parce que là on revient au cœur de la problématique européenne, on s'inscrit dans le temps long, on regarde l'enjeu européen à la dimension du monde, l'Europe dans la mondialisation, et on a besoin de revenir sur cet ancrage européen. Et il y a eu un paradoxe depuis le début à vouloir construire cette Union européenne, en valorisant la diversité, en se préservant de ce qui aurait pu être la construction d'un État-nation, et personne n'en voulait en tant que tel, une harmonisation. Oui, oui, oui. Même une construction encore plus intégrée, plus avec évidemment tous les débats autour de la une forme de fédération européenne. Mais à vouloir préserver la diversité qui est au cœur de toutes les politiques européennes quand même, toutes les politiques culturelles qui ont été mises en place, on a aussi été vers une forme d'identité universelle. On voit bien que toutes les valeurs qui sont au cœur de la charte des droits fondamentaux et les valeurs que porte l'Union européenne tendent, du point de vue européen, vers une forme d'aspiration universelle. Mais à vouloir se prémunir de trop de symboles d'unité européenne, le drapeau européen, l'hymne européen, dont on se souvient qu'ils ont été retirés du traité de Lisbonne.
Une armée européenne qui n'existe pas.
Une armée européenne qui, pour le moment,
reste... semblant d'exister.
Absolument. Enfin, même dont le projet en tant que tel reste discuté. Crée un déficit d'identité, d'appartenance, de lien commun entre les citoyens européens. Et c'est pour ça que c'est intéressant là de revenir au traité de Maastricht, parce que ça a été justement le moment où on a créé une citoyenneté européenne, un moment où on se rendait compte qu'il y avait un tournant dans le lien entre les citoyens et cette communauté européenne qui allait devenir une union européenne, un manque d'affectio societatis et un manque d'appartenance, et qu'on avait besoin de créer à minima cette citoyenneté européenne pour réancrer les individus dans ce projet européen.
C'était ça l'objectif numéro un des promoteurs de Maastricht, du traité de Maastricht?
Le gros projet du traité de Maastricht, c'était l'union économique et monétaire. Et aujourd'hui, on a envie de dire l'union monétaire, parce que ça a été là aussi, on a le recul aujourd'hui pour voir que l'essai de Maastricht n'a pas été transformé au sens où cette union économique et monétaire n'a avancé que sur la jambe monétaire, comme Jacques Delors l'a si longtemps regretté et l'a souligné. C'est-à-dire que non seulement il y avait un déficit d'Europe sociale, et il faut se rappeler que dans les critères de Maastricht, Jacques Delors avait voulu inscrire un critère de maximum de chômage des jeunes et qu'il avait été refusé. Et ça aurait, maintenant, on se dit que ça aurait quand même été très intéressant. Il aurait fallu voir comment on aurait pu gérer.
Un taux de chômage supérieur, je ne sais pas combien, pour les jeunes deviendrait illégal. C'est ouais, ça. L'idée,
il aurait fallu contraindre, le chômage des jeunes en dessous d'un certain barème.
Alors certaines personnes disaient dans une analyse qui était un peu superficielle, mais bon, ça se disait beaucoup. On a mis en 92, on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on fait d'abord une monnaie unique avant de construire une Europe des citoyens, une Europe politique. Est-ce que c'était effectivement un choix qui n'était pas pertinent de faire l'union monétaire avant de faire une vraie union politique? Ça se disait à l'époque, vous vous souvenez, ça
oui.
se disait.
Est-ce qu'il faut mieux mettre l'économique avant le politique ou pas? C'est surtout qu'on n'a pas été assez vite, encore une fois, dans la consolidation du projet d'ensemble, parce que le projet économique, il a été quasiment absent. Aujourd'hui, on s'interroge sur une politique industrielle, on se dit, mais il est temps, on a pris du retard. Il fallait cette politique économique, cette politique industrielle, aller plus rapidement vers une harmonisation sociale, la question de l'harmonisation fiscale qui restait en suspens. Donc, que reste-t-il à ce moment-là d'une intégration politique? À un moment où c'est très intéressant de revenir sur les archives comme vous venez de le faire, parce qu'on voit qu'on a le sentiment d'une répétition dans l'histoire de ces moments ponctuels de consultation politique, démocratique sur les enjeux européens. Il y a Maastricht, il y a 2005, il y a le référendum britannique en 2016, avec un investissement politique très fort, mais finalement entre peu de place pour un espace public européen, pour des débats dans les assemblées nationales, pour une délibération avec les citoyens à différents niveaux de la société.
Quels sont les acquis, cela dit, au-delà de l'euro, les acquis de Maastricht? Soyons simples, les grands acquis de Maastricht. Quels sont-ils?
L'euro, on peut pas l'éviter, parce que
non, pas l'éviter, mais je dis au-delà parce que c'est oui. parce que c'est évident. Quels sont les autres?
Dans la foulée de Maastricht.
C'est que l'euro, alors?
Non. Dans la foulée de d'abord, ça a été quand même l'institutionnalisation du Conseil européen. Mmh. Et là, c'est la mise en place d'un conseil qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement et qui permet de donner des grandes orientations politiques. Dans la foulée, ça a été la constitution de Schengen, faut pas oublier. Alors aujourd'hui, Schengen est très discuté sur la question du droit d'asile. Mais Schengen, on prend un peu les acquis pour des choses déjà, qu'on ne valorise pas assez. Mais ça a été la création d'un espace de libre circulation entre les États européens. Ça a été la promotion la protection des consommateurs, toutes les normes alimentaires qui nous protègent, qui aujourd'hui constituent. On évoque toujours les normes européennes comme des contraintes.
Qui font hurler partout.
Oui, qui font hurler partout. Mais on oublie de considérer que ceci, non seulement une force, une capacité défensive, et puis que c'est une force aujourd'hui dans un monde à l'échelle de la mondialisation où on cherche à promouvoir nos normes. Mmh. Et c'est parce qu'on compte à l'échelle d'un marché unique, parce que c'est ça aussi, c'est le marché unique qu'on a constitué avec sur la base du traité de Maastricht et sur la base de cette monnaie commune qu'on a réussi à donner une force et un poids à ce marché unique.
Alors, est-ce que aujourd'hui, pour vous, l'Europe est un rempart à la férocité, voire la brutalité de la mondialisation, d'une économie mondialisée, ou est-ce que c'est un relais de cette mondialisation? Quand on voit la force et la puissance des lobbies à Bruxelles, des lobbies de grandes industries. Alors c'est un rempart ou c'est un relais?
Écoutez, quand j'écoute Donald Trump, il y a encore quelques jours, qui parlait de l'Union européenne en disant « ce partenaire commercial brutal », je me dis qu'on n'est pas complètement... qu'on n'est pas les oies du village mondial. Il faut rappeler quand même que l'Union européenne est la première puissance commerciale mondiale, on oublie de le dire. Qui reste la deuxième puissance économique mondiale. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut reprendre en effet l'enjeu de la mondialisation. Et là, tous les manques d'accompagnement qui ont eu lieu avec une Union européenne qui avait des frontières qui n'étaient pas définies. Et à un moment où on a eu ce grand élan de la mondialisation, les années 80-90, l'entrée de la Chine à l'OMC, une accélération de la compétitivité mondiale, le grand échec de l'Union européenne, et ça n'a pas simplement été l'Union européenne, les États-Unis sont dans la même situation, d'autres partenaires, ça a été de ne pas voir ce que deviendrait la Chine aujourd'hui, de ne pas anticiper à la fois le fait que la Chine n'allait pas converger vers le système des valeurs libérales et multilatérales, et allait devenir un concurrent féroce.
Plus que sérieux. Oui,
oui et que finalement, les règles que l'on mettait en place progressivement dans la mondialisation ne donnaient pas lieu à une concurrence libre et non faussée.
Ouais.
au contraire, et une dynamique sociale européenne pour laquelle, encore une fois, Jacques Delors avait plaidé et qui devait accompagner cette ouverture des frontières à la fois au sein de l'Union européenne et défendre les Européens n'est pas allé assez loin, même si le niveau de protection sociale dans l'Union européenne reste à part entière exemplaire par rapport au reste du monde. Enfin, il faut le rappeler, et c'est un filet de sécurité qui aujourd'hui pèse et protège les citoyens européens.
On continue notre jugement d'Europe à charge et à décharge. On va parler de la question qui fâche, mais vraiment qui fâche. 2005, les Français disent non. Alors ils y voient un peu plus clair hein, par rapport à 92, ils voient comment se dessine l'Europe, un peu mieux. Ils disent non, très bien. Et le traité de Lisbonne dit en gros, vous avez dit non, et ben c'est pas grave. On vous le refourgue quand même, pardon d'être un petit peu familier, mais ça crée un sentiment... Je n'invente rien. Ça a créé un sentiment de déni de démocratie et de méfiance vis-à-vis de l'Europe que je trouve, moi, particulièrement grave. Est-ce que la faute grave de l'Europe, c'est pas ça?
C'est quelque chose qui n'a pas été digéré. Qu'on n'a pas pris le temps de... Oui, non, absolument. Même s'il faut, rappeler quand même que le nouveau traité, le traité de Lisbonne, qui était une réduction de la Constitution européenne, est passé par un vote au Parlement, et que le Parlement, jusqu'ici, reste légitime en tant que tel.
Bien sûr.
Il faut rappeler également que ce nom, la Constitution européenne de 2005, est intervenu, si on essaye de comprendre aussi les raisons de ce vote du non, est intervenu un an après le grand élargissement de 2004.
Oui.
Et donc vous avez rappelé dans vos archives qu'il y avait tout ce contexte de politique nationale et que tous les référendums finalement sanctionnent d'abord une situation de politique nationale.
Mais regardez aujourd'hui, pardon de vous couper, mais même les élections européennes, ce qu'on entend aujourd'hui dans les débats en France par exemple, c'est de savoir si En Marche va faire plus que le Rassemblement national. Mais j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. L'enjeu, c'est de savoir quelle couleur sera le Parlement européen. Voilà, c'est ça l'enjeu.
Absolument. Et quels sont les grands enjeux que l'on veut faire avancer au sein du Parlement européen et dans les politiques? Quel est l'agenda à venir et dont on parle peu aujourd'hui? Donc c'est d'abord une sanction par rapport à un contexte national. Et en 2005, c'était particulièrement, à mon sens aussi, une sanction vis-à-vis du grand élargissement 2004 qui avait été peu expliqué, peu préparé. Et souvenons-nous, au moment où a eu lieu cet élargissement, on l'a très peu célébré dans les anciens des États membres. Il était célébré dans les nouveaux États membres.
Et même Jacques Chirac, qui avait été l'un des promoteurs de cela, avait fait la leçon à ces mêmes pays en leur disant « Vous arrêtez de regarder maintenant vers les Américains qui sont vos anciens alliés parce que c'est les ennemis de vos ennemis, les communistes. Maintenant, vous êtes en Europe. » Il leur a fait la leçon. On s'en souvient.
Absolument.
Comme quoi la construction européenne est difficile, compliquée.
Et puis c'était un moment où on parlait de constitution européenne. Donc au contraire, on proposait quelque chose dont on avait le sentiment que ça allait encore plus vers un pas d'intégration politique, justement.
Alors 2005, puisqu'on en parle, on va écouter une dernière archive. Philippe Séguin, donc ce gaulliste social, comme on disait à l'époque, homme politique intelligent, éclairé, qui a pris, avec quelques autres, la tête de la campagne pour le non à Maastricht, il martèle une idée en 2005, donc en 2005 on dit non, et là il martèle une idée selon laquelle rien ne sera plus comme avant. On l'écoute.
Je constate que le peuple français s'est exprimé, qu'il a choisi de sortir d'une alternative absurde, en exprimant sa sympathie pour l'idée de la construction européenne, plutôt qu'en portant les derniers coups à un traité dont la nocivité est avérée désormais à ses yeux. C'est probablement qu'il avait conscience, au terme de cette campagne, que rien désormais ne pourrait plus être comme avant, ni pour la construction européenne, ni pour le débat démocratique en France. Le traité de Maastricht sort en charpie du débat et du scrutin référendaire français. Et d'autres peuples européens sont prêts à prendre la relève pour parachever le rejet d'un mode de construction européenne que les gouvernants seraient mal inspirés de s'obstiner à promouvoir. Les Français ont fait, quant à eux, la démonstration de leur volonté de reprendre en main leur destin et d'imposer le grand retour du politique contre toutes les dérives conservatrices et technocratiques.
Bon, il en dit des choses, hein, Philippe Séguin, dans ses déclarations. C'est pas forcément simple. Faut lire entre les lignes. Ce que je retiens, moi, c'est rien ne sera plus comme avant dans le débat démocratique en France. Il avait raison, quand même. Ça a tout changé.
Il avait raison au sens où on a mis le doigt sur un déficit de débat autour des questions européennes et de délibération avec les citoyens. Et en même temps, j'ai le sentiment quand même que, à nouveau, l'histoire se répète beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des trous entre ces différentes consultations avec un manque de délibération. Ça n'est pas quelque chose qui sort de la bouche des maires en France, ni des députés européens. On n'entend pas beaucoup les députés nationaux, on ne les entend pas beaucoup articuler les enjeux de politique nationale sur fond
avec
de politique
une grille de lecture
européenne.
Il n'y a pas de grille de lecture européenne. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure lors de la campagne électorale. En ce moment, c'est la même chose. On manque de grille de lecture européenne. On reste dans une grille de lecture nationale.
Et là, je dirais que ce qui explique aussi un petit peu, à mon sens, ce déficit, c'est aussi les enjeux internationaux ne sont pas assez présents. À partir du moment où on prend davantage la mesure des plaques tectoniques qui sont en train de bouger à l'échelle du monde, évidemment, c'est les enjeux de changement climatique, les enjeux globaux, mais c'est les enjeux de la montée de la Chine, la guerre commerciale avec Donald Trump, le sud sahélien qui est compliqué. À partir du moment où on a ces enjeux en tête, ça proportionne les enjeux de solidarité, de mutualisation. Ça resitue le débat européen au bon niveau pertinent.
Vous avez dit tout à l'heure que parmi les acquis de l'Europe, il y avait le Conseil européen, au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement prennent des décisions. Mais où est la démocratie là-dedans? La démocratie, pour tous les citoyens d'Europe, ça doit être le Parlement, pour lequel on va voter le 26 en France. Quel pouvoir a ce Parlement européen? Parce que c'est une vraie question quand même dans la motivation des électeurs.
Mais le Parlement européen, depuis 1979, il n'a cessé d'accroître ses pouvoirs. Mm-hmm. En termes de compétences, de vote à la, de co-législation avec le Conseil européen. Aujourd'hui, le Parlement parvient à bloquer des projets. Et on le voit très bien sur les questions commerciales. Lorsqu'un accord commercial est négocié par la Commission européenne sur base d'un mandat qui lui a été donné par le Conseil, le Parlement va voter et peut bloquer ou pas, peut infléchir tout au long de... Il est consulté et il est mis dans la boucle tout au long de la négociation de ces accords commerciaux. On ne suit pas assez les activités du Parlement européen. On ne les a pas... Les parlementaires, les députés européens ne sont pas assez présents, là aussi, dans nos débats nationaux pour faire état de toutes les politiques qu'ils avancent. Mais ils votent tous les mois des nouvelles règles, des nouveaux principes sur l'égalité des hommes et des femmes, sur tous les enjeux de notre quotidien.
C'est ce qui explique le fait qu'on a l'impression qu'il n'a pas de pouvoir. Parce qu'on l'a, l'impression.
Oui, absolument. Parce qu'il est absent de nos débats quotidiens, politiques et médiatiques. Mais le pouvoir du Parlement européen se vérifie tous les jours.
Puisque vous avez apprécié, et nos auditeurs peut-être aussi, l'extrait de Laurent Godet dans « Nous, l'Europe, banque des peuples », je voudrais en lire un deuxième, vous voulez?
Volontiers.
Bien. Qui sommes-nous maintenant? Ce que nous partageons, c'est d'avoir traversé le feu, d'avoir été chacun bourreau et victime, jeunesse bâillonnée et main couverte de sang. Ce que nous partageons, c'est l'humanisme inquiet. Donc il parle des Européens, évidemment. Mmh. Nous savons ce que l'homme peut faire à l'homme. Nous connaissons l'abîme. Nous avons été avalés par sa profondeur. Alors, ce qui nous lie, c'est d'être un peuple angoissé qui sait l'ombre qui est en lui. L'Europe, c'est une géographie qui veut devenir philosophie, un passé qui veut devenir boussole, un territoire de 500 millions d'habitants qui a décidé d'abolir la peine de mort, de défendre les libertés individuelles, de proclamer le droit d'aimer qui nous voulons, libre de croire ou de ne pas croire. Nous sommes humanistes et cela doit s'entendre dans nos choix. Aucun dieu unique en Europe, aucun panthéon devant lequel s'agenouiller, le territoire est vaste et doit le rester. Nous avons construit un continent Babel, étrange et compliqué, qui ne tient que dans cet équilibre subtil entre indépendance et fraternité. C'est un poème. Hein.
Absolument. Et revenir à l'origine de cette identité européenne, dans laquelle il y a le doute, il y a l'esprit critique, il y a cette volonté de faire avancer des valeurs, c'est un socle fondamental.
Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Elvire Favry. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le traité de Maastricht, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Nicolas Cazot qui était à la technique aujourd'hui.